de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. États-Unis sont convaincus que, dirigés par l'Indonésie, le partenariat États-Unis et ASEAN peut surmonter les défis mondiaux. Les relations avec les États-Unis sont très importantes pour l'Indonésie. Athlètes indonésiens de Wushu suivent des camps d'entraînement en Chine jusqu'aux Jeux asiatiques de 2023 à Hangzhou. L'Indonésie a rapatrié avec succès 14 citoyens indonésiens soupçonnés d'être des victimes de la TIP depuis la Birmanie. Airbus, construit en Chine, a été remis à des compagnies aériennes européennes. 109 designers internationaux et nationaux sont prêts à animer le NTB Limov 2023. Le ministre du Commerce reçoit la visite de l'ambassadeur de Corée du Sud. Bon, chers auditeurs, voici la nouvelle en complet. L'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, Johannes Abraham, estime que sous la direction de l'Indonésie, le partenariat entre les États-Unis et l'ASEAN sera en mesure de surmonter les défis et les opportunités du 21e siècle, du changement climatique à la santé, l'économie. Citant l'agence de presse Antara, Abraham a déclaré lors de la célébration du 274e anniversaire de l'indépendance des États-Unis à Jakarta mardi que le partenariat devrait être en mesure de soutenir une règle indo-pacifique régionale et mondiale libre et ouverte de droits et de règles qui défendent les principes de souveraineté et l'intégrité territoriale pour toutes les nations. Il a considéré l'année écoulée comme une année très positive pour le partenariat États-Unis-ASEAN. Abraham a souligné que la relation entre les gens, à la fois la relation entre le peuple américain et l'Indonésie, et avec les gens de toute la région, est très importante. Pour cette raison, il est également heureux de pouvoir établir des relations avec les jeunes de toute la région grâce à l'initiative des jeunes leaders d'Asie du Sud-Est. Le ministre indonésien coordinateur des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que les relations et le partenariat stratégique des États-Unis étaient très importants pour l'Indonésie. Cela a été transmis en commémoration du 247e jour de l'indépendance des États-Unis à la résidence officielle de l'ambassadeur des États-Unis en Indonésie à Jakarta mardi. Dans son discours, Luhut a déclaré que depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1949, les relations bilatérales entre les deux pays se sont développées rapidement. Les États-Unis d'Amérique et l'Indonésie ont grandi avec les mêmes valeurs, partagé les mêmes intérêts et se respecté. Le moment est venu de renforcer les relations et les partenariats stratégiques. Luhut a ajouté qu'à l'approche de 75 ans de relations diplomatiques en 2024, les deux pays doivent renforcer leurs relations dans un contexte de changement du paysage géopolitique et géopolitique actuel et futur. Il a ajouté que renforcer les relations, c'est intensifier les domaines stratégiques tels que la coopération maritime, la défense, le changement climatique, l'économie, les infrastructures, les énergies et technologies propres, et enfin, les relations entre les peuples. Le conseil exécutif indonésien de Wushu, PBWI, a envoyé 15 athlètes en Chine pour suivre un camp d'entraînement en vue des 19e Jeux asiatiques à Hangzhou. Citant un rapport de l'agence de presse Antara, entraîneur-chef de l'équipe nationale indonésienne, Novita, dans une déclaration écrite dit « L'équipe de Wushu nationale indonésienne a subi un camp d'entraînement pendant 3 mois. Après s'être entraînés, ils ne sont pas retournés en Indonésie, mais ont immédiatement concouru. Novita a déclaré que l'équipe indonésienne profiterait de ce long temps de préparation pour atteindre l'objectif des Jeux asiatiques à Hangzhou, en Chine, du 23 septembre au 8 octobre. Pendant leur séjour en Chine, 8 athlètes Tolu et 7 athlètes Sanda subiront une série d'essais afin d'obtenir les meilleurs résultats lors de la compétition, lors du plus grand événement sportif d'Asie. Novita a ajouté, le président du PBWI, Erlang Hartanto, espérait que l'équipe nationale indonésienne de Wushu pourrait répéter son succès aux Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang 2018, à savoir en remportant en or, en argent et 3 bronzes. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a réussi à rapatrier 14 citoyens indonésiens qui auraient été victimes du crime de traite des personnes de la Birmanie 27 juin. Ce rapatriement est le fruit d'une coopération entre le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade d'Indonésie à Yangon et le siège de l'armée nationale indonésienne TNI. Citant un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères mardi 27 juin, les 14 citoyens indonésiens travaillaient auparavant dans une société d'escroquerie en ligne à Lukang, dans l'état de Shan, qui borde la Chine. Ils sont hébergés à l'ambassade d'Indonésie à Yangon depuis le 23 juin 2023. Les citoyens indonésiens viennent du nord de Sumatra, de l'ouest de Java et du centre de Java. Avant d'être renvoyés chez eux, les 14 citoyens indonésiens avaient suivi le processus conformément à la loi de la Birmanie, y compris le paiement des amendes d'immigration de manière indépendante. Une fois le processus terminé, ils ont été ramenés en Indonésie à l'aide de l'avion de TNI Hercules le 27 juin 2023 et sont arrivés à la base aérienne de Halim Perdana Kusuma à 21h30, heure locale. Le rapatriement de 14 citoyens indonésiens soupçonnés d'être victimes de TIP depuis la Birmanie a réaffirmé l'engagement du gouvernement à protéger les citoyens indonésiens dans le contexte de la situation sécuritaire compliquée en Birmanie. Airbus a livré pour la première fois un avion assemblé dans la ville de Tianjin, au nord de la Chine, à ses clients européens. La compagnie hongroise Wizz Air, la plus grande compagnie low-cost d'Europe centrale et orientale, a reçu son premier A321neo assemblé sur la chaîne d'assemblage finale d'Airbus, Fal Asia, lors d'un événement à Tianjin mardi 27 juin. Le directeur général d'Airbus Tianjin Delivery Center, Christophe Schrem, a déclaré « La remise est une étape historique pour Airbus Tianjin », citant Antara a rapporté Xinhua, selon Christophe Schrem, au milieu de la forte reprise de l'économie chinoise, Fal Asia continue d'augmenter sa capacité d'assemblage afin d'aider à répondre à la demande croissante des clients internationaux et d'injecter de nouvelles incitations pour le marché mondial de l'aviation, pour répondre à la demande croissante du modèle populaire A321. Airbus a annoncé son intention d'étendre les capacités de production de l'A321 au Fal de Tianjin en 2021. L'A321neo, le plus gros avion de la famille A320, peut transporter un maximum de 244 passagers. Inauguré en 2008, le Fal de Tianjin est la première chaîne d'assemblage d'avions commerciaux d'Airbus hors d'Europe. 100 designers internationaux et nationaux sont prêts à animer le Festival international de la mode modeste de Lombok, Limof, qui se tiendra dans la zone touristique de Senggigi, Lombok occidental, Nusa Tenggara occidentale, du 6 au 9 juillet 2023. Président de NTB Regional National Craft Council Dekra Nasda, Niken Saptarini Widyawati Zulkifli Mansyah lors de la réunion de coordination d'Ulimov au bureau du gouverneur de NTB à Mataram mardi a déclaré que 109 designers internationaux et nationaux avaient confirmé qu'ils participeraient au Limov 2023. Ces designers internationaux venaient de pays de l'ASEAN comme la Malaisie, Singapour, les Philippines, le Cambodge et le Brunei Darussalam, tandis que le national vient d'un certain nombre de régions d'Indonésie, alors que le chef du service de l'industrie de Nusa Tenggara occidentale, Norianti, a déclaré qu'en plus d'être un événement de mode, le Festival international de la mode modeste de Lombok Limof est également prêt à devenir un événement promotionnel pour d'autres secteurs de premier plan de NTB, notamment le tourisme, l'artisanat, beauté et cuisine halal. Le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, a rencontré l'ambassadeur de Corée du Sud à Jakarta, Lee Sang-deok, au bureau du ministère du Commerce de Jakarta mardi 27 juin. Cette réunion a discuté des relations commerciales entre les deux pays, telles que l'accord de partenariat économique global Indonésie-Corée, IKCEPA, et le partenariat économique global régional, 50 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Corée, solde des marchandises, et la candidature de Busan pour accueillir l'exposition universelle de 2030. Zulkifli Hasan a déclaré « L'Indonésie est optimiste sur le fait que la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et la Corée depuis le début de 2023 améliorera les relations commerciales, les investissements et la coopération économique entre les deux pays. » Le ministre du Commerce espère que plusieurs programmes de coopération qui ont été discutés par les deux pays lors d'une réunion à Séoul en février 2023 pourront être mis en œuvre immédiatement. Pour ce jeu d'art, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la chronique diplomatique dont le titre est « L'industrie automobile indonésienne approfondit ses réseaux et sa pénétration du marché au Vietnam ». Pas moins de 11 entreprises indonésiennes du secteur automobile, en particulier des produits des pièces détachées, ont participé à l'exposition Automécanica 2023 qui s'est tenue au Centre d'exposition et de convention de Saigon, SECC, en ville de Ho Chi Minh. Cette exposition internationale est la cinquième série d'expositions et est l'une des plus grandes expositions de produits de pièces dressantes au Vietnam. Le pavillon indonésien est l'un des 9 pavillons participants à Automécanica 2023. L'exposition Automécanica 2023 est suivie par un total de 461 entreprises de 20 pays et régions. Soutenue par l'ambassade indonésienne à Hanoï, l'attaché commercial en collaboration avec la Direction de développement des exportations de produits manufacturiers, le ministère du Commerce, 11 entreprises indonésiennes ont occupé le pavillon indonésien de 90 mètres carrés. Le consulat général d'Indonésie à la ville Ho Chi Minh et l'attaché commercial et des représentants du ministère indonésien du Commerce étaient présents à la cérémonie d'ouverture Automécanica 2023 qui a eu lieu le 23 juin 2023. L'inauguration de la cinquième série d'Automécanica a été également témoignée par les représentants du département du commerce et de l'industrie de la ville Ho Chi Minh et des représentants de plusieurs associations d'entreprises automobiles vietnamiennes. Les opportunités pour le secteur automobile au Vietnam se multiplient. Cette année, l'intérêt des exposants a augmenté de 28%. En plus de rencontrer des gens d'affaires vietnamiens, cette exposition est l'occasion de développer des réseaux avec des partenaires d'autres pays. Outre la présentation de produits, cette exposition propose également des sessions de conférences, des événements, des réseautages et des ateliers. Selon les organisateurs, les véhicules électroniques, l'entretien et la maintenance automobile et la fabrication automobile sont les plus grandes opportunités sur le marché vietnamien. L'exposition s'est tenue jusqu'au 25 juin 2023. Chers auditeurs, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 29 juin, Journée nationale de la famille. La commémoration de la Journée nationale de la famille fait référence à la situation nationale qui n'est pas encore propice, après l'annonce de la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie en 1945. Ces conditions ont forcé le peuple indonésien à s'engager dans le service militaire pour maintenir son indépendance. Beaucoup de gens ont été séparés de leur famille parce qu'ils ont été appelés sur le champ de bataille à ce moment-là. Le 22 juin 1949, les Pays-Bas ont remis la souveraineté de la nation indonésienne dans son ensemble. La guerre a pris fin et les guerrières ont commencé à retourner dans leur famille. L'incident de retour des combattants pour retrouver leur famille a été enregistré une semaine après l'octroi de la souveraineté indonésienne, le 29 juin 1949. Cette date a ensuite été proposée pour être la Journée nationale de la famille en 1993. Passons maintenant à l'événement du 29 juin 2005, Ruslan Abdulghani est décédé. Ruslan Abdulghani est un homme d'État et homme politique indonésien. Il a été ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie en 1956 à 1957. Il a également été ministre de l'Information dans le gouvernement du président Sukarno. Pendant l'administration du président Sukarno, Ruslan Abdulghani était ambassadeur de l'Indonésie auprès des Nations Unies, 1967 à 1971, et a été le chef de l'équipe consultative présidentielle sur le Pancasila pendant 20 ans depuis 1978. Ruslan Abdulghani est décédé à Jakarta le 29 juin 2005 à l'âge de 90 ans. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 29 juin comme Journée internationale des pêcheurs. La Journée internationale des pêcheurs est célébrée pour reconnaître les défis auxquels sont confrontés les pêcheurs et honorer leurs efforts inlassables. La journée a été célébrée pour la première fois en 2018 selon une proposition du Forum mondial des peuples de pêcheurs WFFP lors de son assemblée générale. La date choisie était le 29 juin, jour de la Saint-Pierre, patron des pêcheurs. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Katakan padaku yang sebenarnya kau mau, agar aku bisa melanjutkan hidupku. Perasaanku mengatakan kan ada pisah, tapi mengapa kau menarik ulur hatiku? Jika kau butuh, katakan butuh. Jika kau cinta, katakan cinta. Katakan padaku apa yang harus ku buat, biar kau bahagia dan aku juga bahagia. Perasaanku mengatakan kan ada pisah, tapi mengapa kau menarik ulur hatiku?
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. C'est un moment pour nous de vous présenter mon Indonésie ayant pour le titre « Le ministère de l'Environnement et des Forêts a demandé aux gouvernements régionaux de superviser la mise en œuvre des valeurs économiques du carbone ». Le ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, a demandé aux gouvernements locaux de superviser la gouvernance environnementale dans le cadre de la mise en œuvre d'une valeur d'économie du carbone en Indonésie. Cela a été transmis par la ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, dans un communiqué cité à Jakarta, mercredi 28 juin. Le gouvernement a réinventé la valeur économique du carbone par le biais du règlement présidentiel numéro 98 de 2022 avec des règlements d'application sous la forme du règlement de la ministre de l'Environnement et des Forêts numéro 21 de 2022 concernant les procédures de mise en œuvre de la valeur économique du carbone NEC et numéro 7 de 2023 concernant les procédures pour le commerce du carbone dans le secteur forestier. La gouvernance environnementale est un système de valeurs composé de règles, pratiques, politiques, institutions et d'autres qui façonnent l'interaction humaine avec l'environnement. La ministre Cité a déclaré qu'une bonne gouvernance environnementale considère les rôles des acteurs qui ont un impact sur l'environnement. Selon elle, la coopération entre le gouvernement central, les gouvernements locaux, le secteur privé et la communauté est nécessaire pour mener à bien la bonne gouvernance environnementale pour l'efficacité du gouvernement et avancer vers un avenir durable. Siti Nurbaya a déclaré qu'il existait un certain nombre de clés de la gouvernance environnementale, notamment l'intégration des aspects environnementaux dans la prise de décision à différents niveaux et dans l'action réelle sur le terrain, la conceptualisation des régions et des communautés économiquement et politiquement comme faisant partie de l'environnement, ainsi que de mettre l'accent sur la relation entre les personnes et les écosystèmes dans lesquels elles vivent et d'en croiser les étapes vers des systèmes circulaires ou de recyclage ou plutôt que l'alimentation directe. En outre, en protégeant l'environnement et en le contrôlant des forces destructrices, y compris les impacts du changement climatique, il a révélé plusieurs principes utilisés pour protéger l'environnement et le contrôler des forces destructrices, y compris les impacts du changement climatique, à savoir les principes de gouvernance environnementale, les principes de gestion durable des forêts et les principes de gouvernance du carbone. Selon elle, le gouvernement adhère à la Constitution de 1945 concernant la gestion de l'environnement et le développement durable. Pendant ce temps, l'engagement envers la communauté internationale s'effectue conformément à l'esprit énoncé dans le préambule de la Constitution 1945, selon lequel l'Indonésie participe à la réalisation de l'ordre mondial. C'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, la communauté musulmane d'Indonésie célèbre aujourd'hui l'Aïd al-Adha. Avant ce jour, les gens étaient généralement occupés à acheter des animaux sacrificiels sur un marché de bétail qui servent de centre des activités de commerce de bétail. En Indonésie, il existe environ 4 marchés aux bestiaux légendaires avec leur tradition locale unique. Le premier est Pasar Bolu dans le sud de Sulawesi. Créé en 1992, ce marché de bétail est devenu le plus grand marché au bouffle dans le monde. Le marché ne couvre initialement que 2,9 hectares, mais il a maintenant été étendu à 4 hectares. Le marché est occupé tous les mardis et samedis, qui sont ses jours de marché les plus fréquentés. Ce marché fournit des bouffles de différents types et tailles. Il y a des bouffles noir simple, des bouffles raillés et des bouffles saléco. Le prix d'un bouffle saléco pouvait atteindre jusqu'à 1 milliard de roupias. Dans le sud de Kalimantan, il y a le marché de Salang-Halang qui fonctionne depuis 1985. Ce marché est connu comme le plus grand marché de bétail de Kalimantan. Les commerçants vendent divers types de vaches telles que des vaches angolaises, limousines, simmentales, balais et croisées. Et aussi il y a des chèvres et des bouffles. Ce marché n'ouvre que tous les lundis. Ensuite, il y a le marché Beringkit à Bali, créé en 1972. Ce marché était à l'origine exploité par le système de troc. Finalement, le gouvernement a commencé à développer le marché et à changer le système de transaction en espèces. Ce marché de bétail offre une variété de bovins, de poulets et de canards de qualité supérieure. Ce marché ouvre pendant 4 jours, le mardi et le samedi sont pour les bovins de boucherie, tandis que le mercredi et le dimanche sont pour les bovins reproducteurs. Chers auditeurs, le dernier est un marché de l'ouest de Sumatra nommé Payakumbu. Connu comme le plus grand marché de bétail de Sumatra, couvrant une superficie de 1250 m², ce marché vend divers types de bovins tels que le simmental, le bali, le brahman, l'ongol est une race locale connue sous le nom de bétail côtier. Les transactions sur ce marché utilisent toujours le jugrokan et non une échelle de mesure ordinaire. Une autre caractéristique unique de ce marché est la tradition marosok qui fait référence au commerce en serrant la main tout en étant couvert d'un tissu et d'un chapeau. C'est la signature de transactions des locaux afin que le prix secret du bétail soit maintenu, évitant ainsi toute envie ou dispute entre commerçants et acheteurs. C'est joli tard, c'était le magazine Cotolou pour ce soir. Merci d'être fidèle à la Voix d'Indonésie. À bientôt!
Cintamu percaya dengan ucapan dari bibirmu. Dan bila itu benar bagimu, buktikanlah semua rasamu. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepadaku. Aku pun ingin tahu sampai di mana kau mencintaku. Cintamu kepadaku, aku pun ingin tahu sampai di mana kau mencintaku. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepadaku.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Innovation Bio Briquette. La bio briquette est un combustible solide fabriqué à partir de la biomasse EPRK utilisé comme source d'énergie renouvelable alternative pour remplacer le pétrole et les fossiles. Les données du ministère de l'énergie et des ressources minérales pour 2021 indiquent que les réserves nationales de pétrole sont 4,17 milliards de barils et que les réserves de gaz naturel atteignent 62,4 millions de pieds cubes. Les données sont certaines de continuer à diminuer chaque jour. Des efforts sont nécessaires pour surmonter ces problèmes. L'un d'entre eux est l'utilisation de l'énergie de la biomasse provenant des plantes nipa sous forme de bio-briquette. Nipa est un type de palmier et l'une des fleurs potentielles trouvées à Kampung Laut Tanjab Tim, la province de Jambi. À Kampung Laut Tanjab Tim, l'utilisation du NIPA n'est pas optimale. Concernant cette question, les étudiants du programme d'études D3 en chimie industrielle de l'Université de Jambi, présidé par Putra Surya Pandawa Yuda, a innové NIPA en une nouvelle forme d'énergie renouvelable sous la forme de bio-briquette NIPA. L'innovation réalisée par les étudiants de l'Université de Jambi leur a permis de se qualifier pour le financement du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la Direction académique de l'enseignement supérieur provincial par le programme d'autonomisation des communautés villageoises. Ils ont soulevé le titre NIPA Biobriquette, les dernières solutions d'énergie alternative dans l'utilisation des ressources naturelles dans le village de Laut Tanjung Jabung Timur. L'équipe a été déclarée avoir réussi la sélection le 7 juin 2023. Le programme de l'autonomisation des communautés villageoises vise à sensibiliser et à inviter les étudiants à contribuer au développement et à l'autonomisation des communautés villageoises. Les activités du programme d'études d'État en chimie industrielle de l'Université de Jambi se tiendront en juillet jusqu'à novembre 2023. Pendant la mise en œuvre de cette activité, une socialisation, une formation et une assistance seront effectuées pour les résidents de Kampung Laut dans la fabrication de Nipah Biobriquette. Le Nipah Biobriquette devrait devenir l'un des produits supérieurs de Kampung Laut pour optimiser l'utilisation des plantes Nipah. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La Voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voix International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voice of Indonesia, La Voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the world. Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons la chanson de Abid Gyade. Serge Etar, la chanteur et auteur-compositeur nommé Abid Ghoffar bin Abu Ja'far, ou connu sous le nom de Abid Gyade, est connu pour ses chansons qui racontent des histoires sur la nature et les chagrins ou les souffrances des groupes marginalisés. L'une des chansons débite sur le thème de la nature est Berita Untuk Kawan. Cette chanson est sortie en 1979 dans l'album Camellia 2. Cette chanson a été écrite par Abid Gyade en signe de son empathie pour l'éruption de cratère toxique Sinila à Dieng, Java Central, en 1979. Les paroles de cette chanson parlent d'une catastrophe qui a fait de nombreuses victimes. À travers cette chanson, Abid nous invite à nous souvenir de ce que les humains ont fait à la nature pour que la nature rechigne à être amical avec les humains. Comme les paroles sont considérées comme ayant réussi à représenter l'empathie, cette chanson est devenue plus tard les chansons jouées à chaque fois qu'une catastrophe naturelle se produisait. Bon, chers auditeurs, voici Abid Gyade va chanter une chanson intitulée Berita kepada kawan. Bonne écoute! Thank you.
kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Adalah dia di atas segalanya. Oh, adalah dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Kita mesti berjuang memerangi diri. Bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, oh. Do-do-do-do.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.